Je viens de dire que notre étude sera basée sur le troisième chapitre de Genèse. Alors, si vous voulez bien ouvrir votre Bible pour que nous puissions étudier ensemble. J'imagine que vous vous êtes posé ces questions par le passé. Pourquoi y a-t-il autant de souffrance dans notre monde ? Même cette semaine, pourquoi y a-t-il des inondations à Paris? Ailleurs en France, nous voyons des gens qui souffrent. Sur le plan personnel, pourquoi est-ce que moi, je souffre, vous souffrez? Pourquoi la vie est-elle souvent si pénible, si difficile? Pourquoi est-ce qu'il y a du conflit chez moi, dans ma famille? Pourquoi mon travail est-il si difficile des fois? Pourquoi certains n'ont-ils pas de travail? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi autant de frustration, de chaos dans ce monde? Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de conflit dans le monde que Dieu a créé au début. Alors comment expliquer la souffrance que nous tous nous expérimentons? L'athée, il essaie de répondre à cette question en nous disant que notre souffrance n'a aucun sens. Il n'y a aucune bonne raison derrière. La souffrance, c'est la plaisanterie malsaine du hasard. Le monde est comme ça, voilà tout. Notre existence n'a pas de sens, donc la souffrance non plus. Mais nous trouvons une réponse bien différente dans la Bible. Et cette réponse est que le monde subit le jugement de Dieu contre le péché. Nous avons lu dans Romains chapitre 8, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire à cause de Dieu. » Il y a un mois, nous avons vu brièvement les conséquences immédiates du péché pour Adam et Ève. Honte, culpabilité, relation brisée avec Dieu et relation brisée l'un avec l'autre, relation brisée avec la création. Mais aujourd'hui, nous allons examiner les versets, le chapitre 3 de Genèse, les versets 14 à 19, pour voir les conséquences du péché pour toute la création. Et ce que nous verrons dans ces versets nous aidera à mieux comprendre ce que nous vivons tous les jours, à mieux répondre aux questions que je viens de poser. Et la première chose que nous allons voir dans ces versets, c'est que le jugement de Dieu est bien réel. Le jugement de Dieu est bien réel. Dans les versets 11 à 14 de ce chapitre, Dieu pose simplement des questions à Adam et Ève. Et eux, ils essaient de s'esquiver pour ne pas faire face à leur culpabilité. Ils trouvent des excuses, nous venons de lire ce passage. Adam dit, c'était la faute d'Ève, ou c'était même ta faute Dieu, parce que c'est toi qui m'as donné Ève. Ève dit, c'était le serpent qui m'a séduite. Des excuses. Ils rejettent la responsabilité sur l'autre, ou sur quelque chose d'autre. Mais dans les versets 14 à 19, Dieu commence, il ne pose plus de questions. Il commence à donner son jugement et à ce moment-là, il n'y a plus d'excuses. Personne n'a plus rien à dire. Dieu ne permet pas à Satan ni à Adam et Ève de sortir leurs excuses. C'est Dieu le juge et sa parole est sans appel. Il n'y a pas de « oui, mais » quand Dieu donne son jugement. On ne s'esquive pas. On se tait. Et on ne conteste pas. Et une fois le jugement de Dieu est prononcé, personne ne le conteste. Personne ne dit « ce n'est pas juste ». C'est l'une des phrases préférées des enfants et des jeunes. Ils disent à leurs parents « mais ce n'est pas juste ». Et peut-être des fois, les jeunes, ils ont raison. Il est possible que les parents se trompent de temps en temps. Que leur jugement ne soit pas juste. Mais ce n'est jamais le cas avec Dieu. Parce que Dieu voit toutes choses. Il sait toutes choses. Dieu voit le cœur, les pensées et les motivations. Et le jugement de Dieu, nous voyons, est personnel. Il s'adresse d'abord au serpent, à Satan, à Ève et à Adam, à tous ceux qui étaient impliqués dans la rébellion contre lui. Le jugement de Dieu est bien réel. Et le danger pour nous est que nous oublions la réalité du jugement de Dieu. Et dès qu'on commence à vivre en pensant qu'il n'y a pas de juge, pas de jugement, on commence à penser qu'il n'y a plus de conséquences de nos actes, de notre péché. On commence même à penser que le péché n'est pas grave. C'est ce que notre monde a fait, n'est-ce pas? Pas de Dieu, donc pas de juge. Pas de juge, donc pas de jugement. Pas de punition. Et pas de jugement, pas de souci pour la mort ou après la mort. Et surtout pas d'enfer. Mais nous savons, grâce à ce passage, que le jugement de Dieu est bien réel. Ce passage nous enseigne que Dieu est souverain. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu, notre Créateur, nous donne sa loi. Et en tant que celui qui nous donne sa loi, il a le droit de nous juger. Il est notre Créateur, il a le droit de nous donner sa loi. Il nous donne sa loi, il a le droit de nous juger. Alors regardons le jugement de Dieu contre le péché. Et ça commence avec le serpent et Satan. Jusqu'à ce point dans l'histoire de l'humanité, de la création, quand Dieu a parlé, c'était souvent pour bénir ceux qu'il avait créés. Mais dans le verset 14, tout ça change. Maintenant, au lieu de bénir, Dieu maudit. Verset 14, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Dieu maudit-il le serpent? Pourquoi punir le serpent si c'était vraiment Satan qui s'était servi du serpent pour tenter Ève? Dieu maudit le serpent pour symboliser son jugement contre Satan. Et il faut surtout voir cette malédiction comme symbolique du jugement de Dieu contre Satan. Qu'est-ce que Dieu dit au serpent? Il dit qu'il devrait marcher sur son ventre et manger de la poussière. Le serpent donc est humilié, abaissé. Manger de la poussière veut dire être vaincu, assujetti, ignoble et inférieur. Nous lisons dans le livre de Michée, chapitre 7, ces versets. Les nations le verront Dieu, et seront confuses. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche. Leurs oreilles seront assourdies. Ce sont les ennemis qui sont les nations qui sont les ennemis de Dieu. Elles lècheront la poussière comme le serpent. Comme les reptiles de la terre, elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Et puis dans le psaume 72, nous lisons « Devant lui, devant Dieu, les habitants du désert flécheront le genou et ses ennemis lècheront la poussière. » C'est une image, c'est un jugement qui veut dire que le serpent et Satan sont humiliés, abaissés, assujettis et vaincus. Et le verset 15 que nous avons considéré ces deux dernières semaines, le verset 15 confirme que Satan sera vaincu, écrasé, forcé de manger de la poussière par son vainqueur. Sa tête sera écrasée. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit ces deux dernières semaines. Donc le serpent est maudit pour nous rappeler le jugement de Dieu contre le péché et la rébellion. Contre Satan. Cette malédiction même d'un animal nous montre combien le péché est grave aux yeux de Dieu. Un commentateur a dit, à chaque fois que nous voyons un serpent, nous devons nous souvenir de notre chute, de notre péché et du jugement de Dieu contre le péché. Il y en a qui disent que la malédiction sur le serpent montre également que même si le serpent était innocent dans un sens, il était maudit car il était incriminé à cause de sa relation à la chute. Imaginez cette illustration, il y a quelqu'un qui rentre dans une maison pour cambrioler. Mais lors du cambriolage, la personne qui habite dans la maison trouve le cambrioleur dans la cuisine. Et le cambrioleur, il prend un couteau. Et avec ce couteau, il tue le propriétaire de la maison. Qui est le coupable ? Le cambrioleur ou le couteau ? Ben, c'est le cambrioleur, bien sûr. Il faut condamner le cambrioleur. Mais imaginez la femme de la personne qui a été tuée. Est-ce qu'elle serait à l'aise en se servant de ce couteau pour trancher du pain ? Ben, pas du tout. Parce que ce couteau a été impliqué dans le meurtre de son mari. Alors, le cambrioleur est condamné, mais il faut aussi détruire ce couteau. Et dans un sens, c'est ce qui se passe ici avec le serpent. Dieu est tellement contre le péché que sa malédiction contre le péché s'étend au serpent qui est impliqué dedans. Et non seulement au serpent, mais aussi à tous les animaux. Car si le serpent est maudit, et nous lisons entre tout le bétail et tous les animaux, ça veut dire que la malédiction s'étend à tous les animaux. La chute a des conséquences pour tous les animaux. Mes amis, ne pensons jamais que Dieu prend le péché à la légère. La malédiction du serpent et de Satan nous montre l'inverse. Ça, c'est le jugement contre le serpent et contre Satan. Voyons ensuite le jugement contre la femme. Et le jugement de Dieu contre Ève, nous voyons, touche à deux choses particulièrement précieuses à la femme. Deux choses qui touchent au cœur de son identité. La maternité et le mariage. On pourrait dire deux des rôles les plus importants pour la femme. Deux rôles que Dieu lui avait déjà accordés. D'abord, il y a la maternité. Malgré son péché, Dieu permet toujours à la femme d'expérimenter la joie de la maternité. C'est vrai que ce n'est pas donné à toutes les femmes d'être mères, et nous devons en être sensibles à de tels cas. Mais Dieu permet que les femmes puissent toujours expérimenter la joie, le bonheur, l'allégresse de la maternité. Mais à cause de son rôle dans le péché, ce sera désormais une bénédiction douloureuse et pénible. Dieu lui dit, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. » Et malgré les avancées médicales qui aident à soulager la douleur, la grossesse et l'accouchement sont toujours pénibles. Et la douleur ne s'arrête pas au moment de l'accouchement. Les commentateurs nous disent que ce verset parle également des douleurs et des peines que les mères expérimentent tout au long de la vie de leurs enfants. N'est-ce pas le cas quand on a des soucis pour les enfants de bas âge, pour les adolescents, et puis même quand ils sont adultes? Quand les enfants passent par les épreuves, leurs parents et surtout, je pense, leur mère ne restent pas indifférents aux souffrances de leurs enfants. N'est-ce pas exactement ce que nous expérimentons dans notre assemblée? Nous avons des soucis pour nos enfants qui grandissent dans un monde marqué par le péché, un monde hostile à Dieu. Nous voyons des dangers, des tentations partout. et nous sommes très peinés de les voir souffrir, de les voir malades. Et cette peine que vous, les mamans surtout, que vous expérimentez, trouve ses racines dans la chute, le jugement de Dieu contre le péché de l'humanité. Aucune mère n'a jamais souffert pour ses enfants. Et puis Dieu parle de la relation de la femme avec son mari. Encore une fois, nous reconnaissons que ce n'est pas donné à tout le monde d'être marié. Mais le mariage est quand même instauré pour le bien de l'humanité comme une bénédiction. Et comme la maternité, le mariage devait être une source de joie, d'épanouissement et d'harmonie. Mais le péché a des conséquences pour le mariage. Lisons ce que Dieu dit à Ève au verset 16. « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Comment comprendre ce que Dieu dit à Ève ici? Nous avons déjà étudié dans le chapitre 2 que Dieu avait créé Ève pour être une aide semblable à Adam. Et il avait donné à Adam la place d'autorité dans le mariage. Ils étaient créés égaux, mais Dieu a quand même donné cette place d'autorité. Et Dieu a fait d'Adam le chef de sa famille. C'est un rôle donné par Dieu, mais en discutant avec Satan, en prenant le fruit et en donnant le fruit à Adam, Ève a agi à l'inverse des rôles désignés par Dieu. Elle avait usurpé l'autorité d'Adam. Et dans le verset 16, Dieu lui dit que désormais, au sein de sa relation avec son mari, au sein de la relation homme et femme, il y aura ce désir de la part de la femme de dominer, d'usurper, de mépriser l'autorité du mari. Quand Dieu dit « Tes désirs se porteront vers ton mari », c'est la même phrase que nous lisons dans Genèse 4, verset 7. Et Dieu parle à Caïn et il dit « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi ». Ça veut dire que le péché veut te dominer. Alors quand Dieu dit à Ève « Tes désirs se porteront vers ton mari », ça veut dire que toi tu désiras de dominer. Dieu est en train de dire à la femme qu'elle voudra désormais imposer sa volonté, être à la place que Dieu avait accordée à l'homme. Alors Dieu est en train d'annoncer ici, on pourrait dire, la guerre des sexes, une lutte pour le pouvoir au sein du mariage. Et puis la deuxième partie du verset 16 encore, « Il dominera sur toi ». Encore une promesse de conflit et de tension au sein du mariage. Au lieu de protéger, d'aimer, d'édifier la femme, de chérir sa femme, Dieu dit que l'homme aura tendance à dominer, à imposer son pouvoir par force. Et là, dans cette malédiction, nous voyons que nous sommes loin, très loin du mariage que Dieu avait instauré avant la chute. Vous voyez les conséquences du péché ? Aimer et chérir sont devenus dominer et assujettir. Et nous tous qui sommes mariés, nous connaissons ce conflit. Oui, le mariage, c'est un don de Dieu. Oui, le mariage, c'est une bénédiction de Dieu. Mais depuis la chute, le conflit est au cœur du mariage. Le péché est là. Et le péché désire dominer dans le mariage. Et c'est une lutte constante pour le chrétien de dire non au péché au sein du mariage. Voilà le jugement contre la femme. Et puis, troisièmement, nous voyons le jugement contre l'homme. Versets 17 à 19. Dieu dit à Adam, d'abord, tu n'as pas respecté l'autorité que je t'avais donnée. Tu savais très bien ce que Ève était en train de faire et tu n'as rien fait pour l'empêcher. Adam, tu aurais dû dire stop à Ève, mais tu as approuvé ce qu'elle faisait et tu l'as suivie dans sa désobéissance. Lisons ce qu'il dit au verset 17. « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger. » Adam, tu aurais dû dire non. Tu savais très bien ce qui se passait et tu n'as pas réagi. Alors Dieu prononce la sentence contre l'homme. Et on se rappelle que le jugement sur la femme touchait aux deux choses qui devaient être une source de joie et de satisfaction pour elle. Ben, c'est la même chose pour Adam. Dieu avait donné à Adam la position de gérant de la création, de fermier, d'horticulteur. C'était un de ses rôles principaux. Dieu avait créé Adam pour travailler, pour pourvoir, pour gérer. Mais maintenant, Dieu maudit son travail en maudissant le sol. Verset 17. « Le sol sera maudit à cause de toi. » Le sol avait été une source de joie et de bénédiction pour Adam. Mais il devra désormais lutter pour cultiver le sol, pour le dominer et pour l'exploiter. Le travail avait été donné comme une bénédiction. Mais tout comme la maternité et le mariage, le travail aussi est devenu pénible et dur, épuisant. L'homme n'arrivera plus à complètement assujettir la terre. Dieu punit Adam parce qu'il a mangé le fruit que Dieu avait interdit de manger. Et désormais, la production de nourriture sera pénible et dure. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Tu as pensé que c'était facile de prendre ce fruit. Bah, à partir de maintenant, manger deviendra difficile. Et puis le verset 19 nous rappelle l'avertissement de Dieu au chapitre 2 que la mort serait le jugement de Dieu contre le péché. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quel triste tableau. Souvenons-nous de ce que Satan avait promis à Adam et à Ève. Vous serez comme Dieu. Vous gagnerez. Écoutez-moi et vous connaîtrez de la joie, de l'épanouissement. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Douleur, peine, malédiction, poussière, épine, ranse, sueur, souffrance, frustration tous les jours de notre vie. Et puis la mort. Vous voyez ce que fait le péché? Vous reconnaissez les conséquences du péché avec des enfants, dans le mariage, au travail? Non seulement notre relation avec Dieu est brisée, mais tout est brisé. Tout est décalé. Même les choses qui devraient nous faire nous réjouir, les choses qui devraient nous rendre heureux, sont pénibles et frustrantes. Paul décrit bien notre monde quand il dit « La création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Mais même au cœur de cette scène morne et triste, il y a des lueurs de lumière et d'espoir, de grâce. Ce passage nous montre que Dieu est un Dieu de justice, que Dieu punit le péché, qu'il ne le prend pas à la légère. Mais Dieu est aussi un Dieu de grâce. Il est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Et nous voyons ça dans ce passage. Et ça nous amène à notre dernière considération, dernier point ce matin. La grâce dans l'obscurité. D'abord, nous avons déjà passé 2 semaines à le considérer ensemble, il y a la promesse au sein de ce jugement, il y a la promesse de la destruction future de Satan au verset 15. Oui, dit Dieu. Il y aura une lutte, un conflit entre Satan, contre Satan, contre le péché. Mais il y aura un jour de victoire. Ça, c'est promis dans verset 15. Quelqu'un viendra pour écraser la tête de Satan. Et nous avons vu que ce quelqu'un était bien Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a écrasé la tête de Satan, celui qui a été envoyé pour détruire les œuvres de Satan. Et la tête de Satan a été écrasée par la mort de Jésus à la croix. Donc même dans l'obscurité du jugement de Dieu, il y a de la grâce. Il y a une promesse de victoire et de salut. Mais il y a aussi d'autres lueurs de grâce et de lumière. Le jugement de Dieu atteint peut-être les trois choses dans notre vie qui nous apportent le plus de joie, de bonheur et de satisfaction. La famille, le mariage et le travail. Et dans le jardin, Dieu agit de sorte que ces trois choses nous laissent toujours sur notre faim. Avoir des enfants, être marié et avoir du travail, c'est une bénédiction, une source de joie. Mais Dieu agit de sorte que ces choses n'arrivent pas à satisfaire à nos besoins, nos désirs les plus profonds. Nous restons sur notre faim, nous restons frustrés, nous éprouvons toujours de l'insatisfaction. Si nous cherchons notre épanouissement, notre plaisir, notre bonheur dans ces choses-là, nous trouverons certes du bonheur, nous trouverons de bonnes choses, mais nous trouverons également des ronces, des chardons, des peines et des douleurs. Écoutez ce que dit l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, qui décrit une telle vie. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais pris à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Il avait tout goûté, tout ce qui était bien. Et à la fin, tout ce qu'il avait à dire, c'était tout est vanité. Il restait sur sa faim. Nous sommes frustrés, nous gémissons, nous restons sur notre faim. Comme Mary Pierce, elle savait qu'il y avait quelque chose d'autre. Pourquoi ? Pour que nous reconnaissions qu'il y a quelque chose de meilleur, qu'il y a quelqu'un de meilleur. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ. Un des buts de ces frustrations est de nous diriger vers Dieu, de nous faire voir notre besoin de Dieu. Dieu veut que nous crions avec l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Le danger pour nous est que nous fassions une idole des bénédictions que Dieu nous a données, de la famille, du mariage, du travail, que nous mettons ces bonnes choses au centre de notre vie. Mais Dieu dit non. N'adorez pas les cadeaux au lieu de celui qui vous les donne. Ces choses sont importantes, mais cherchez d'abord, dit Dieu, le royaume de Dieu. Cherchez d'abord Jésus-Christ. Dieu a maudit la création pour nous rappeler qu'il y a quelque chose de meilleur, pour nous donner envie de connaître quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui soit encore plus précieux que le mariage, plus précieux que nos enfants, plus précieux que notre travail. Dieu veut que le matérialisme nous déçoive. Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et notre mécontentement, nos frustrations dans ce monde nous font languir après une réalité meilleure. Le passage que nous avons lu dans Romains 8 nous parle d'une future gloire, une future libération, une adoption, une rédemption. J'estime, dit Paul, que les souffrances, et lui il a souffert, du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous, pour nous. Si vous êtes chrétien et vous subissez ces souffrances, ces frustrations, ces douleurs, écoutez bien ce que Paul vous dit. Ces choses-là ne vont pas durer éternellement. Mais vous allez jouir de la présence de Jésus-Christ éternellement. Oui, votre vie ici-bas est dure, mais elle est relativement courte par rapport à la gloire éternelle qui vous attend en la présence de Dieu. Dieu se sert même de son jugement contre le péché pour nous donner un désir ardent pour une vie meilleure en la présence de Jésus. Oui, nous soupirons, oui, nous gémissons, nous pleurons, mais un jour, comme dit l'apôtre Paul, Jean, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Vous subissez les frustrations du jugement de Dieu sur la création. Vous pleurez pour vos enfants, pour votre mariage, pour votre travail. Dieu essuiera toute larme de vos yeux. Et si vous n'êtes pas encore chrétien ce matin, dans sa grâce, Dieu place des panneaux partout dans votre vie pour vous rappeler des conséquences du péché, pour vous rappeler que vous avez besoin d'un sauveur, que vous êtes perdu. Les souffrances et les frustrations que vous expérimentez, ce sont le haut-parleur de Dieu pour vous faire entendre son message. Seul Jésus-Christ peut satisfaire à vos plus grands besoins. Cherchez Jésus-Christ. Mary Pierce avait passé sa vie à chercher son bonheur, sa raison d'être dans le tennis. Elle a ressenti un vide qui a été rempli par Jésus-Christ. Et nous avons vu ce matin que le jugement de Dieu contre le péché est bien réel. Et nous avons vu que dans ce premier jugement de Dieu, qu'il y a quand même de la grâce. Mais la Bible dit clairement qu'un jour, il y aura un dernier jugement de Dieu. Et ce jour-là, il n'y aura plus de grâce. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Passons quelques minutes dans la prière.